Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien en ce 10 novembre 2017. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Je pense que le froid vous rend de bonne humeur, vous.
Ah oui, tout à fait.
Oui, vous êtes un homme d'hiver?
Je suis un homme de toute saison. j'aime bien quand il fait froid.
Oui, alors vous êtes servi. Est-ce que vous êtes venu quand même en scooter
non,
ce matin?
Non, je suis venu en vélo ce matin parce que je me suis dit, si jamais il neige, je préfère marcher à pied à côté de mon...
De votre vélo?
En fait, j'aime mieux revenir en vélo que marcher à côté de mon scooter jusqu'à chez moi.
Ah oui,
si jamais
d'accord.
Je ne peux pas rouler.
Oui.
Mais voilà.
Mais il y avait un petit peu de glace quand même hein,
oui,
sur la chaussée.
Oui, c'était glissant, mais on roule prudemment.
Vous n'avez pas spiné en bon français?
Non, pas
non.
du tout.
Mais tant mieux. Alors, on vous écoute dans les éphémérides.
Le 10 novembre, journée mondiale de la qualité. Donc, c'est une occasion de réfléchir sur la mise en place des procédures qualité qui permettront à terme des améliorations économiques et socialement tangibles. Pour ce qui est des événements, c'est une petite journée. En fait, 1852, à cause d'une épidémie de choléra, le Parlement est dissous à Québec.
Et...
Ouais, ça devait pas être drôle. J'ai dit quoi? 1926, Hirohito est proclamé empereur japonais.
Prenez votre temps.
Oui, je pense que c'est la neige, comme on disait, c'est
oui,
les perturbations atmosphériques. Donc, c'est ça, 1926, Hirohito est proclamé empereur au Japon. En 1947, la fondation de la Société d'assurance des caisses populaires acadiennes. Ensuite, nous avons en 1951, le premier appel transcontinental sans téléphoniste est placé depuis le New Jersey jusqu'en Californie. Nous avons en 1969 la première de Sesame Street à la télévision publique aux États-Unis.
Oh.
Oui,
mais
c'est une
ça,
belle réaction. En fait, oui et non, je ne connais pas vraiment.
C'est pas vraiment votre génération, non, hein, non, vous êtes né un peu plus tard, mais
ouais.
De toute façon, ça demeure.
Ça a perduré, oui, ça a perduré, mais la télévision n'est pas un outil que j'utilise particulièrement
non.
souvent.
Vous préférez les vélos et les scooters?
Et les livres.
Bon, c'est bien
et
ça.
Et les podcasts.
Et la radio.
Et la radio, bien sûr. Et 1979, un train déraille à Mississauga, en Ontario, causant une fuite de chlore d'un wagon. 222 000 résidents sont évacués. Nous avons 1987, Pierre-Marc Johnson démissionne comme chef du Parti québécois. Jacques Parizeau lui succédera. Au Japon, toujours, ben, encore une fois, en 2008, le prix Kyoto est remis au philosophe montréalais Charles Taylor et au biologiste torontois Anthony Paulson. Et en 2010, coup dur pour le bilan sicilien de la mafia montréalaise, Nicolo Rizzuto est abattu dans sa demeure de l'arrondissement de Cartierville, dans le nord de la ville de Montréal. Et pour ce qui est des naissances, nous avons le réformateur allemand Martin Luther, qui est né en 1483, qui est décédé en 1546. D'ailleurs, il y a un grand festival à Cologne qui commence très bientôt. Je pense même que c'est demain.
Oui?
Oui, un très, très beau festival.
Festival qui a un rapport avec Luther?
Non, pas du tout. C'est juste que vu que j'ai vu le mot allemand, ça m'a fait penser à la belle ville de Cologne.
Puis vous parlez allemand, vous?
Ah, ein bisschen.
Ah!
Le romancier québécois Claude de Jasmin, qui est né en 1930... En 1873, c'était Henri Rabaud, le compositeur et chef d'orchestre français. Et pour ce qui est des décès, nous avons en 1996 Fred Lippmann, le pionnier de la montre à quartz. Nous avons en 2003 Mr. Banana, Canan Sondido Banana, qui devient en 1980 le premier résident noir du Zimbabwe, évincé en 1987 par Robert Mugabe. Nous avons en 1981 le décès du cinéaste français Abel Gance et Arthur Rimbaud nous a quittés un 10 novembre en 1891. On rappellera évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, que ben, Rimbaud était un poète français.
Oui, j'ai une demande spéciale.
Oui, vous voulez
vous
une
pouvez
chanson
pas dire
de
non. Non, la chanson Sensation,
d'accord.
C'est à partir du poème d'Arthur Rimbaud. Musique de Robert Charlebois, interprétation de Robert Charlebois. Il y a Daniel Bélanger qui l'a repris, c'est très beau, mais ça serait bien d'entendre.
Il y a pas aussi Félix Leclerc qui a chanté?
Non.
Non, François Sasson, que je vais vous faire ça
oui.
dans la prochaine journée.
d'ici la fin de l'émission.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup, Mathieu.
Avec plaisir.
À la une de la presse, pour un « no fault » médical. Dans un jugement rendu la semaine dernière, un juge de la Cour supérieure relance l'idée d'une assurance sans égard à la responsabilité pour les victimes d'accidents médicaux. Lisez la chronique d'Yves Boisvert et le récit du long combat judiciaire d'Anna Maria Fiocco, devenue paraplégique après une opération. Cinéma, où trouver les films de répertoire? Le cinéma international est le parent pauvre des Netflix, iTunes et illico de ce monde. Stade olympique, Québec veut un toit démontable. Et la chronique d'Ange Jean-Philippe Descaries, tous égaux devant la TVQ. Dans un jugement rendu la semaine dernière, un juge de la Cour supérieure relance l'idée d'une assurance sans égard à la responsabilité pour les victimes d'accidents médicaux. La décision, qui n'accorde pas un cent à Anna Maria Fiocco, devenue paraplégique après une opération, met fin à son long combat judiciaire. Alors, je vais lire la chronique d'Yves Boisvert à ce sujet. Pour un no fault médical. C'est l'histoire d'une femme qui entre à l'hôpital pour une opération au cœur et qui en ressort paraplégique. Elle poursuit le chirurgien. 7 ans et des dizaines de milliers de dollars plus tard, le jugement tombe. La vie de la patiente de 61 ans et de sa famille a été gâchée. Les dommages dépassent le million, mais la preuve d'une faute du médecin n'est pas concluante, la requête est rejetée. Le juge Benoît Moore de la Cour supérieure aurait pu se contenter d'une minutieuse analyse de la preuve d'expert où il est question d'artères intraventriculaires circonflexes, de cardioplégie et d'hypoperfusion. Mais devant ce résultat révoltant, le juge Moore a décidé en passant de dénoncer l'absurdité du système d'indemnisation actuel des victimes d'accidents médicaux. Une sorte de ras-le-bol judiciaire poliment esquissé au milieu de 28 pages bien tassées. Cette sortie résonne d'autant plus fort que ce juge, récemment nommé, était un expert du droit de la responsabilité civile à l'Université de Montréal. Un cas tragique comme celui-ci, mais qui n'est qu'un parmi des centaines, écrit le juge Moore, force à se demander si le système fondé sur la preuve d'une faute professionnelle est adéquat. Il ne l'est évidemment pas. Il faudrait parler d'accident thérapeutique plutôt que d'erreur médicale. Il apparaît évident que les interventions médicales peuvent être source de risques de préjudice sans que l'on puisse démontrer au tribunal une faute du personnel soignant. La question de l'indemnisation d'un tel préjudice se pose alors à l'ensemble de la société, écrit-il dans ce jugement du 2 novembre. La France, la Nouvelle-Zélande ont un système d'indemnisation sans égard à la faute médicale. Au Québec, on a soustrait les accidents de travail et les accidents de la route au régime de la responsabilité civile ordinaire. Pourquoi pas les accidents médicaux? Avant la création de la SAAQ, la SAAQ, le business juridique des accidents de voiture était florissant et tout aussi absurde. Les poursuites en responsabilité découlant d'accidents de la route avec preuve d'expert se comptaient par milliers. Il ne revient pas à un juge de décider de l'opportunité d'implanter un tel système d'indemnisation sociale, reconnaît le magistrat. Ce système comporterait d'ailleurs plusieurs difficultés. Montant des indemnités, mécanismes d'évaluation et de contestation, création d'un tribunal administratif, etc. Mais le juge ne peut s'empêcher toutefois de souligner l'injustice qui est exposée devant lui. Anna Maria Fiocco a subi un lourd préjudice, puis... elle doit investir des dizaines de milliers de dollars en expertise et honoraires d'avocat pour se faire dire qu'elle n'a droit à rien. Le chirurgien Benoît de Varenne est dans la position de défendre la qualité de son travail, de prouver qu'il n'a pas commis de faute. Le débat s'engage non pas sur les séquelles de la victime de l'accident, mais sur la compétence du médecin. Un débat exorbitant et mal avisé socialement. Le système actuel profite essentiellement aux avocats et aux experts. Les médecins eux-mêmes paient des primes d'assurance colossales qui servent à enrichir un fonds de défense et d'indemnisation, l'Association canadienne de protection médicale, ACPM, dont le sympathique slogan est « Pour l'avancement des soins de santé ». Le système force un patient victime d'un accident à embaucher un avocat, faire une preuve d'expert, toujours difficile vu la solidarité du milieu, attendre des années ponctuées de requêtes et de procédures insensées, et se taper un procès à l'issue incertaine. À l'opposé, le médecin est entièrement défrayé, se fait offrir des experts en quantité et en qualité, d'excellents avocats qui connaissent tous les trucs du métier et beaucoup de médecins, beaucoup de médecine. Même si le dossier se règle, c'est au terme de longues années et d'obstructions légalisées destinées bien souvent à tester la détermination du requérant et à l'épuiser. Et à la fin, on aura dépensé en pure perte une somme qui aurait pu indemniser et plus le patient accidenté par la médecine, sans pour autant faire du médecin un coupable. Le Collège des médecins est déjà là pour les fautes déontologiques. Le patient qui sort en chaise roulante de la table d'opération se fout pas mal de savoir si l'on peut prouver une faute professionnelle dans la façon d'aller réparer une valve du cœur. Qu'on gaspille autant d'argent à en débattre n'a aucun sens socialement. C'est la conséquence qu'il faut considérer. Bref, cette idée consistant à voir ces affaires comme des accidents et non comme des fautes commises par des incompétents nous fait sortir de l'actuelle logique judiciaire ruineuse. L'idée n'est pas nouvelle, mais qu'un juge de la Cour supérieure la relance comme un cri du cœur devrait nous forcer à la remettre à l'ordre du jour politique. Ça tombe bien, on a justement un gouvernement de docteurs. Docteur? Point d'interrogation. C'est la chronique d'Yves Boisvert aujourd'hui pour un No Fault médical. Déficit budgétaire de 358 millions, boucler le budget 2018 sera difficile, mais pas question de toucher aux services aux citoyens ou de refiler la facture aux arrondissements, dit la nouvelle mairesse Valérie Plante. Ce n'est pas ce que je souhaitais découvrir en prenant la tête de Montréal, un trou de 358 millions, c'est énorme, a-t-elle commenté, en marge d'une visite dans une entreprise en démarrage du quartier Marlène, Smart Hollow. Reconnaissant que son début de mandat s'en trouve considérablement compliqué, elle assure qu'il n'est pas question de sabrer les dépenses pour équilibrer le budget. L'équipe de Nicodère refuse de porter le blâme pour le manque à gagner de 358 millions découverts par l'administration Plante-Doré. Le chef de l'opposition par intérim, Lionel Pérez, explique ce trou de 358 millions dans le budget 2018 par les demandes des différents services et non par une mauvaise gestion. Il revient donc à la nouvelle administration de trancher. Gouverner, c'est assumer. Ils vont devoir le faire, dit Lionel Pérez. Travaux routiers entravent à prévoir ce week-end. Échangeur Turcot, la route 136 Est, autoroute Ville-Marie, a été complètement fermée à la circulation pour le week-end hier soir entre l'échangeur Turcot et le centre-ville de Montréal. La bretelle reliant l'autoroute des Carrières, autoroute 15 Sud, à la route 136 sera aussi fermée jusqu'à 5 heures lundi matin pour la poursuite des travaux de construction de l'échangeur du sud-ouest de la métropole. Et au pont Mercier, la circulation sera réduite à une seule voie en direction de la rive sud entre 6h et midi demain dimanche. Demain, la bretelle de sortie de la route 138 ouest vers Châteauguay sera aussi inaccessible entre 6h et 10h. Dimanche matin, ce sera au tour de la bretelle de la route 132 est vers la Prairie d'être interdite à la circulation de 6 à 10h. Les entraves sont nécessaires pour l'inspection des panneaux de signalisation et des systèmes d'éclairage du pont Mercier. Ces opérations n'entraîneront aucune entrave dans les bretelles ni sur le pont en direction de Montréal. Et la ministre déléguée à la protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, a demandé au CIU3S du Centre-Sud de l'île de Montréal de suspendre temporairement la fermeture du seul foyer mère-enfant du Centre jeunesse de Montréal, le temps de signer des ententes d'hébergement avec des ressources intermédiaires. Comme la presse l'a révélé hier, le CIU3S a choisi de fermer le foyer Christophe Colomb destiné aux jeunes mères vulnérables et à leurs bébés pour des raisons d'optimisation financière. Une trentaine de mères y étaient hébergées chaque année. « Je ne souhaite pas qu'on se retrouve avec de jeunes mères à la rue avec leurs bébés. Je veux m'assurer qu'on n'échappe personne », a dit Lucie Charlebois, ministre déléguée à la protection de la jeunesse. Thank you.
On n'en fait pas jouer souvent de ce style musical-là, mais c'était Robert Charlebois qui nous chantait la chanson « Sensation » des paroles de Rimbaud.
Oui.
Et après vérification, effectivement, Félix Leclerc l'a chanté en dès 53.
Wow, je ne l'ai jamais entendu. Celle-là, il va falloir la mettre à un moment donné.
Ça va me faire
Mathieu.
Plaisir parce que ouais. C'est comme ça que j'ai connu la chanson.
Ah oui? Alors, vous n'étiez pas dans l'erreur. Mais moi, je connaissais la version de Charlebois et celle de Daniel Bélanger, mais celle de Félix Leclerc, je serais vraiment curieuse de l'entendre.
Elle est très courte, je pense qu'elle est comme 53 secondes.
Hein? Oui. 53 secondes, mais oui. Ça se peut pas.
Ah oui, il la chante. Avec
fais-tu du rap?
Ah, quasiment.
On l'écoutera un jour. Merci. À la une du Devoir de ce vendredi 10 novembre, Ottawa adapte sa stratégie de protection des aires marines, intégrer la notion de refuge l'aide à atteindre son objectif avec une magnifique photo du fleuve Saint-Laurent, j'imagine bien. En tout cas, c'est un plan d'eau extraordinaire. Qu'est-ce qui cloche à l'Université Laval? 3 étudiants sur 4 ont déjà éprouvé un sentiment de vulnérabilité avec leur professeur selon une consultation. Intimidation, vol d'idées, insultes, à l'Université Laval, près des 3/4 des étudiants de 2e et 3e cycle disent s'être déjà sentis vulnérables ou mal à l'aise vis-à-vis de leur directeur de mémoire ou de thèse. Telles sont les conclusions d'un sondage réalisé par l'Association des étudiants inscrits aux études supérieures de l'Université Laval, dont les résultats préliminaires ont été rendus publics jeudi. Cinémania, Claude Lelouch ou Cueillir le jour présent, le cinéaste français est toujours mu par sa passion pour le cinéma et pour la vie. « J'aime la vie avec tous ses défauts », dit Claude Lelouch, qui est en ville, qui est à Montréal pour présenter son plus récent film dans le cadre du Cinémania. L'autodétermination, une douzaine d'experts sont réunis à Montréal pour un colloque international sur l'autodétermination des peuples. Actualité, l'UPAC tient tête au Parlement. Week-end, vision de soir dans l'Est et la chronique de José Blanchette, Mary Poppins et le shérif. Elle parle ici de Valérie Plante et de Denis Coderre. Alexandre Shields, dans Le Devoir d'aujourd'hui, pressé de rattraper son retard en matière de protection des milieux marins, le gouvernement Trudeau a décidé de créer une série de refuges marins dans la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent. Des mesures qui se limitent à protéger des coraux et des éponges de mer tout en laissant la porte ouverte à l'essentiel des activités humaines a constaté Le Devoir. Un geste totalement insuffisant selon la Société pour la nature et les parcs du Canada. Même s'il est bordé par 3 océans, le Canada tarde depuis plusieurs années à accroître la protection de ses milieux marins. En vertu d'un engagement international pris dans le cadre de la Convention sur la biodiversité de Nagoya, le Canada doit toutefois protéger 10 % de ses milieux marins d'ici 2020. Le gouvernement Trudeau s'est d'ailleurs donné comme objectif d'atteindre un taux de 5 % avant la fin de 2017. Or, au début de l'année, le taux avoisinait toujours le 1 %. Ottawa a donc annoncé des projets au cours de l'année, dont une importante aire marine de conservation nationale proposée au Nunavut, mais dont la désignation officielle est à venir. Pêche et Océans Canada précise qu'aucune des autres activités humaines menées dans cette zone n'est incompatible avec les composantes écologiques d'intérêt. Cela signifie que la pêche commerciale est toujours possible, de même que la navigation commerciale. Cela pourrait aussi ouvrir la porte aux projets d'exploration pétrolière et gazière, puisque Pêche et Océans Canada ne mentionne pas d'interdiction formelle de ces activités industrielles. Au moins un de ces refuges se situe dans une zone où des permis d'exploration sont en vigueur. Ces mesures de protection sont donc nettement moins contraignantes que celles imposées dans le cadre des aires marines nationales ou des zones de protection marine, souligne le biologiste Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs. « Ce sont des mesures de création d'aires marines protégées à rabais », résume-t-il. Au cabinet du ministre de Pêche et Océans Canada, Dominique Leblanc, on assure que les refuges marins constituent des mesures de protection efficaces. L'entrepreneur en construction Tony Accurso affirme avoir toujours confié 100 % de la gestion de ses entreprises au président de celle-ci. L'homme nie avoir participé à un système de collusion et de corruption dans l'octroi de contrats publics à Laval, mais avoue en avoir entendu parler à deux reprises. Jeudi, l'ancien propriétaire des firmes Louis Bourg et Simard Baudry a commencé son témoignage à son procès au palais de justice de Laval. Il fait face à 5 accusations, soit de complot afin de commettre des actes de corruption dans les affaires municipales, de complot en vue de commettre des fraudes, de fraude de plus de 5 000 $ de corruption de fonctionnaires et d'abus de confiance. Il a plaidé non coupable à tous les chefs. Et la sortie du député Roméo Saganache contre le bilinguisme colonial à la Cour suprême irrite au plus haut point son ancien collègue Yvon Godin. L'ex-élu néo-démocrate refuse catégoriquement que la maîtrise d'une langue autochtone se substitue à celle de l'anglais ou du français. Il y a 2 langues officielles au Canada et c'est l'anglais et le français, dit M. Godin. On se retrouve après la pause et la chanson avec la suite de l'émission, la revue de presse du Journal de Montréal notamment.
S'appelle Laurence Ely. C'était fille de western et chasseur de primes que l'on retrouve sur son album À présent le passé.
En une du Journal de Montréal du 10 novembre 2017, le palmarès du journal est de retour, les meilleures écoles près de chez vous. Demain, notre cahier spécial, 32 pages, le palmarès des écoles du journal, classement des réseaux publics et privés, donné sur 455 établissements. Et aujourd'hui, il y a des pages accordées, consacrées à ce palmarès de 2 à 5. Un nouveau toit pour le stade. Écoles en forte progression, un établissement a même grimpé de 172 positions dans le classement réalisé par l'Institut Fraser. Alors qu'en 2014, 36 écoles de la province voyaient leur cote octroyée par l'Institut Fraser augmenter de façon statistiquement significative, ce nombre atteint cette année 57 établissements. Il s'agit du plus grand nombre à voir leur classement s'améliorer de manière substantielle depuis que le journal a entrepris la publication du palmarès en 2008. L'auteur de l'étude, Peter Cawley, se réjouit des résultats de cette nouvelle édition dont les données détaillées seront publiées demain à l'intérieur d'un cahier spécial inséré dans le Journal de Montréal. À travers ces écoles, dont certaines ont grimpé de plus de 150 places au classement, les lecteurs trouveront autant des établissements publics que privés, francophones ou anglophones, avec des élèves en difficulté ou non. Bref, les bons résultats n'appartiennent pas qu'à un type d'école, insiste l'Institut Fraser. Parmi les grands succès de l'édition 2017 du palmarès, notons celle de l'école des Deux-Rivières de Matapédia dans le Bas-Saint-Laurent, qui bondit de 172 places au classement. D'autres établissements, comme les écoles des Hauts-Sommets, Émilien-Frenette et Saint-Stanislas, toutes trois de Saint-Jérôme, au nord de Montréal, sont parvenus à augmenter leur cote globale sur 10 de 2 points ou plus sur 5 ans, un réel tour de force. Quant aux positions de tête du classement, elles sont occupées par des écoles déjà reconnues, tant au privé qu'au public. Alors, j'ai ici dans un encadré le top 10 des écoles, selon la cote sur 10 attribuée par l'Institut Fraser. Du côté des écoles privées, Jean de Brébeuf, Jean-Eudes, Sainte-Anne-de-la-Chine, Pasteur et Sainte-Marceline des écoles de Montréal obtiennent toute la note parfaite de 10. Ensuite, c'est suivi par Saint-Sacrement, 9,9 à Terrebonne, Saint-Joseph-de-Hall à Gatineau, 9,7 sur 10, Jean de la Menet à La Prairie, 9,7 aussi, Collège de l'Ouest de l'Île de l'Art-des-Ormeaux, 9,6 et Charlemagne à Montréal, 9,5. École publique maintenant, Collège Saint-Louis, Montréal, 9,9 sur 10, École d'éducation internationale Laval, 9,8, École d'éducation internationale McMasterville, 9,7, Lucille Teasdale à Brossard, 9,4, 9,3 pour Vincent Massy de Montréal, 8,9 pour Royal West à Montréal-Ouest et aussi l'école de Roberval à Montréal, 8,6 à Vallée des Lacs à Saint-Michel-de-Squatec et la note de 8,5 sur 10 à l'École internationale de Montréal à Westmount et à l'École Mont-Royal à Mont-Royal. L'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies dans la nuit de mercredi à hier à Québec, après quoi il aurait notamment refusé d'obtempérer aux demandes des policiers. André Boisclair pourrait faire face à des accusations de conduite de véhicule avec les capacités affaiblies, de refus de fournir un échantillon d'haleine, de refus d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire et d'entrave à la justice. L'homme a été libéré sous promesse de comparaître le 15 février. Et sa déclaration sur Facebook, la déclaration d'André Boisclair, je vous en lis une partie. « Ce qui a été rapporté dans les médias est fondé. J'ai effectivement été arrêté la nuit dernière pour avoir conduit mon véhicule alors que mes facultés étaient affaiblies par l'alcool. J'ai été libéré ce matin, en parlant d'hier, sur promesse de comparaître et je dois maintenant faire face à mes responsabilités et assumer les conséquences de mes gestes. J'ai commis une importante erreur, j'en suis profondément désolé, et je vais maintenant faire face à mes responsabilités en lien avec ce qui s'est passé. Et un peu plus loin, ma seule consolation est que la situation que j'ai causée n'ait pas eu de conséquences sur d'autres personnes que moi-même. Si une personne qui lit aujourd'hui ce message et se questionne ce soir après avoir pris quelques verres de sa capacité à conduire, décide de s'abstenir, la présente publication aura eu son utilité, signé André. Québec veut un nouveau toit pour le Stade olympique. Un budget de 8 millions a été débloqué pour mettre sur pied un appel d'offres. Le gouvernement Couillard a mis en marche le processus de remplacement de la toile fissurée du Stade olympique de Montréal, une opération qui pourrait coûter de 200 à 300 millions de dollars. Le président de la Régie des installations olympiques, Michel Labrec, n'a pas hésité à affirmer que le remplacement de la toiture éviterait que l'on soit en psychodrame à partir de novembre jusqu'en avril chaque fois que quelqu'un veut louer le Stade olympique. La Chambre de commerce de l'Est de Montréal a applaudi dans la soirée d'hier l'éventuel remplacement de la toiture défaillante dont les multiples déchirures ont fini par venir à bout de la patience des Montréalais. Et tant qu'à régler les problèmes récurrents entraînés par l'actuelle toiture, le gouvernement souhaiterait aussi remettre le stade au goût du jour. Cauchemar sur les routes de l'Abitibi. La région a reçu une vingtaine de centimètres de forts vents jumelés à une première bordée d'une vingtaine de centimètres de neige ont rendu les routes de l'Abitibi-Témiscamingue périlleuses. La visibilité était nulle à plusieurs endroits. En soirée, un carambolage a impliqué une quinzaine de véhicules près de Malartic sur la route 117. Un peu plus tôt, cette même route avait dû être fermée à cause d'une collision. À Rouyn-Noranda, plusieurs automobilistes qui n'avaient pas mis leurs pneus d'hiver appelaient pour prendre un rendez-vous. Il y a toujours des gens qui croient qu'on n'aura pas d'hiver et qui sont à la dernière minute, mais nos clients réguliers sont prêts, à raconter Chani Gingras de Mécanique Centre-Ville. À Montréal, le froid fera sa première apparition de la saison aujourd'hui, avec des températures autour de moins 9 degrés Celsius et des vents du nord-ouest. Dès demain, le thermomètre devrait remonter et les températures atteindront les 2-3 degrés, voire même 5 ou 6 durant la semaine prochaine. La presse vietnamienne rapporte que le premier ministre Justin Trudeau ne fait rien comme les autres chefs d'État présents au sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Il s'est permis un petit jogging, tatouage à l'air, jeudi en plein centre-ville de Ho Chi Minh Ville. Il était accompagné par son secrétaire principal, de quelques gardes du corps et surtout d'une horde de paparazzi. Plus tôt dans la journée, Justin Trudeau s'est assis sur le trottoir pour prendre le thé, créant la commotion chez les clients. Le premier ministre restera en Asie pendant plusieurs jours. Un résident de Sherbrooke est activement recherché dans le nord de la Californie, où il est porté disparu depuis mardi matin. Félix Deshôtels-Poirier, 25 ans, s'est endormi lundi soir au bord d'un marais près de la ville d'Arcata, au terme d'une soirée arrosée avec des amis. Le lendemain matin, ces derniers n'ont retrouvé sur place que ses lunettes, son cellulaire et son portefeuille. Informée de la disparition, la police d'Arcata a publié un avis et lancé les recherches dans les environs. La mère du jeune homme, Claudine Deshôtels, craint que celui-ci soit blessé ou noyé et affirme que son fils ne peut rien distinguer sans ses lunettes. La femme ne peut se déplacer en Californie en raison du traitement de chimiothérapie qu'elle suit actuellement, et son mari non plus, car il ne possède pas de passeport. Le pasteur de la petite église texane où un homme a perpétré l'une des pires fusillades de l'histoire récente des États-Unis veut démolir le bâtiment pour construire à la place un monument en hommage aux victimes, a révélé un responsable hier. Le pasteur Frank Pomeroy, dont la fille de 14 ans, Annabelle, figure parmi les victimes de la tuerie de l'église First Baptist de Sutherland Springs, a informé sa hiérarchie de ce souhait plus tôt cette semaine.
Cette chanson est pour toi, Christiane Campagna, notre fabuleuse collègue et responsable aux communications, puisque c'est ta fête et que nous savons que tu aimes Philippe B.
Des itinérants au chaud dès le 1er décembre, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Auparavant, on ouvrait les portes à partir de moins 20. Les itinérants de Montréal pourront pour la première fois bénéficier d'une halte chaleur ouverte toutes les nuits cet hiver. Depuis 2 ans, la mission Saint-Michel ouvrait les portes de sa halte seulement lors de froids extrêmes. L'hiver dernier, l'organisme a donc mis ce service à la disposition des plus démunis pour environ 25 nuits. L'organisatrice communautaire du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, RAPSIM, Amélie Panton, note que la contrainte de température de moins 20 degrés auparavant nécessaire à l'ouverture de la halte a été supprimée cette année. Contactée par téléphone, une responsable de la mission a confirmé l'obtention d'un plus grand financement afin d'être en mesure d'opérer la halte chaleur toutes les nuits du 1er décembre au 30 avril. Les haltes chaleur offrent un répit aux personnes itinérantes qui préfèrent éviter les refuges, lesquels sont souvent plus contraignants et stricts. Il n'y a pas de lit pour dormir, mais les usagers peuvent s'y reposer, socialiser et prendre une boisson chaude. Leurs animaux de compagnie sont également acceptés. La mission Saint-Michel, située dans l'arrondissement Ville-Marie, est l'un des 2 seuls organismes mandatés et financés par la Ville de Montréal et le CIU3S du Centre-Sud de l'île de Montréal pour offrir un service de halte chaleur. L'arrivée imminente des périodes de grand froid amène une plus grande mobilisation afin d'ajouter des mesures d'aide aux personnes itinérantes. Mme Panton souligne toutefois que cet hiver s'annonce plus difficile que les années précédentes en raison de saturation systémique des ressources en hébergement. Pour le fondateur de SOS Itinérance, Alexandre Paradis, l'ouverture d'une halte chaleur au centre-ville, même toutes les nuits, sera insuffisante pour satisfaire la demande pour cette ressource. M. Paradis a lui-même créé une halte chaleur, indépendante de la ville, dans Hochelaga-Maisonneuve l'année dernière. Il déplore l'absence de haltes chaleur dans les quartiers périphériques au centre-ville, lesquels abritent pourtant de plus en plus de personnes en situation d'itinérance. Il est, selon lui, irréaliste pour ces personnes de se rendre à pied à une halte chaleur située au centre-ville. Les personnes itinérantes ne peuvent pas marcher jusqu'au centre-ville avec leurs chiens sans savoir si elles vont être acceptées. Ces personnes doivent être accompagnées et elles sont bien dans le quartier où elles sont. Fin de la présomption d'innocence, c'est Denise Bombardier qui signe cette opinion dans le Journal de Montréal. Notre système de droit est en train de basculer. La sacro-sainte présomption d'innocence est devenue inapplicable et ce, dans un temps record. Les harceleurs et agresseurs sexuels sont déboulonnés dans leur monde dévergondé. Les vedettes et les potentats qui circulent dans les coulisses sont désormais condamnés par le Tribunal international des réseaux sociaux. Et souvent, dans les heures qui suivent, la dénonciation par leurs victimes. Fini l'impunité dans laquelle ils se vautraient. Durant les dernières semaines, pas une journée ne s'est terminée sans qu'un nouveau cas d'abus soit mis à jour, ici comme ailleurs. Et aucune des personnes dénoncées n'a encore été mise officiellement en accusation par les tribunaux, ce qui n'a pas empêché que toutes soient dorénavant mises au banc de la société. Le monde judiciaire doit faire son mea culpa, car il est en partie responsable de la situation. Les tribunaux ont rarement été capables de rendre justice aux quelques femmes qui osaient dénoncer leurs agresseurs. Le processus judiciaire qui commence avec la dénonciation à la police est une épreuve pour les femmes agressées. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que les victimes prennent des années avant de pouvoir révéler publiquement les outrages qu'elles ont subis. Désormais, les réseaux sociaux servent de prétoire aux victimes et de tribunal de condamnation aux agresseurs. Toutes les institutions, toutes les entreprises, qu'il s'agisse des médias, des agences de publicité, des corporations diverses, se désolidarisent de ceux qui sont accusés. Et rares sont ceux qui viennent accuser publiquement leurs dénonciateurs. Le réalisateur Sylvain Archambault et le chef Apollo sont parmi les seuls à l'avoir fait au Québec. Mais dans leur cas, grâce aux révélations de propos graveleux et de gestes douteux, l'opinion publique exprimée sur les réseaux sociaux semble déjà avoir tranché. Cette longue plainte de femmes flétries, violentées, humiliées, exploitées, traumatisées est un raz-de-marée qui va nous obliger à transformer à l'avenir nos institutions et nos mentalités. Les hommes ne pourront plus être distraits ou indifférents envers les farceurs apostrophant des filles comme ils les désignent sur les lieux de travail pour leur faire des compliments à connotation génitale, qu'ils confondent dans leur subtilité de porc épic avec la séduction. De la parole au geste, la distance est courte dans des cerveaux sexuellement fêlés. La présomption d'innocence demeure un des fondements de notre droit. Mais personne n'avait prévu que, grâce à la technologie, des citoyens exerceraient une influence directe sur le territoire de la tolérance sociale en matière de comportement sexuel. Personne n'aurait imaginé que le féminisme enraciné dans le cœur des femmes et débarrassé de l'aveuglement idéologique allait trouver dans les médias sociaux son allié le plus accessible. Le monde juridique doit s'exprimer sur l'avenir de la présomption d'innocence dans les causes d'abus sexuels où la parole de l'agresseur et celle de la victime sont les seuls éléments de preuve. Dorénavant, la cause est entendue par le peuple, ce qui signifierait que, dans ce domaine, la présomption d'innocence est en désuétude. Les coups de cœur de Laurent Duvernay-Tardif dans le Journal de Montréal. Laurent Duvernay-Tardif n'a que 26 ans, mais il présente déjà un curriculum vitae impressionnant. Il est joueur professionnel de football à la LNF chez les Chiefs de Kansas City et étudiant en médecine. Lors d'un événement pour souligner les 50 ans des magazines Sport Expert, l'athlète et ambassadeur de la marque a rencontré le journal pour partager ses adresses chouchous de la métropole. Le numéro 76 dévoile donc son côté gourmand et même son amour pour l'art. Le restaurant préféré de Laurent Duvernay-Tardif, outre la bouffe, l'expérience dans un restaurant est hyper importante pour moi. De plus, je peux quand même dire que je suis un gars assez foodie. J'adore essayer les nouveaux restaurants. Je lis même les critiques gastronomiques dans les journaux. Cela dit, je dois avouer que j'aime le restaurant au pied de cochon, mais pas seulement pour sa poutine au foie gras. Le chef Martin Picard nous ramène de Gaspésie des oursins frais qu'il nous sert sur un riz blanc et qui donne une explosion de saveur. C'est le genre d'endroit où tu peux demander qu'on te serve quelque chose de bon et c'est une surprise qui arrive sur la table. Poursuivons les coups de cœur de Laurent Duvernay-Tardif. Maintenant, l'endroit où prendre un café. Lorsque je pense café, je n'ai pas d'autre choix que de penser à la boulangerie de mes parents. Mes parents sont propriétaires de la boulangerie Le Pain dans les Voiles. Il y a quelques boutiques, dont une qui est située à proximité du marché Jean Talon. Et il y en a quelques-unes dans la rive sud. En fait, j'ai travaillé à la boulangerie jusqu'à mon repêchage dans la LNF. Je vendais au comptoir aux fêtes de Pâques et de Noël. Toutes mes études en médecine, je les ai faites à la boulangerie. Je me vois en arrière à la machine à espresso en train de me faire des cafés comme je les aime. L'activité préférée? Je reviens encore avec la bouffe. Que ce soit aller au marché Jean Talon avec ma copine ou de rapporter quelques aliments frais ou des produits nouveaux qu'on ne connaît pas pour apprendre à les cuisiner ou faire une bonne bouffe. Je ne me prends pas pour un chef, mais juste d'assembler de bons ingrédients frais. Cela peut donner un bon plat de pâte aux champignons avec tomates séchées, pesto et fromage parmigiano. Le dimanche, je suis aussi le genre de gars qui prépare un immense chili, un poulet au curry ou des lentilles. Voyez le genre? J'adore aussi me rendre au restaurant, commander une bonne bouteille de vin et jaser avec les gens. Je suis vraiment quelqu'un qui aime parler et je suis tout de même humain. J'ai besoin d'interaction avec des gens, je dois admettre que ça me manque parfois. Autre coup de cœur de Laurent Duvernay-Tardif maintenant, l'endroit où s'entraîner. Locomotion Studio ou Locomotion Studio, situé dans les Shop Angus. Les gens qui s'y entraînent sont des gens sérieux. Ce n'est pas du tout le tape-à-l'œil des gars musclés qui se regardent dans le miroir. Ce sont des gens qui savent comment s'entraîner, qui connaissent leur corps et qui savent comment bien s'alimenter. Aussi, tous les employés qui travaillent sont des kinésiologues de profession. Il y a donc une espèce de science de l'entraînement qui est présente. Il y a un souci de l'apport du personnel à enseigner des mouvements. C'est un petit gym, mais c'est chaleureux et très beau. Et un athlète que vous admirez, Laurent Duvernay-Tardif répond, Jean-Philippe Darche. C'est un athlète qui a joué au football à l'Université McGill et qui a également fait ses études de médecine à McGill. Il a été ensuite repêché dans la NCF et il a joué dans l'équipe des Seahawks de la LNF à Seattle durant 8 ans. Puis il a terminé sa carrière sportive en jouant pendant 2 ans à Kansas City. Alors c'est la première personne avec qui je voulais parler lorsque j'ai voulu plonger dans l'aventure de la LNF, car il est passé par le même chemin. Maintenant, il est médecin, et il est médecin non seulement, mais il fait en ce moment un programme de surspécialisation en médecine sportive à Kansas City. Il est là où je voudrais être dans 10 ans. C'est un modèle incroyable pour moi. Il n'y a personne d'autre qui comprend cette réalité d'arriver dans une nouvelle ville, de jouer au football professionnel tout en voulant poursuivre ses études de médecine. Vous écoutez les voix de service quotidien en ce vendredi automnal, même presque hivernal, parce que c'est pas chaud, mais on ne se plaindra pas hein, quand on sait qu'en Abitibi, ils ont reçu 20 cm de neige et su une petite trace. Alors, il ne faut pas se plaindre. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On vit au Québec, il y a 4 saisons. On aime ça au fond. On aime ça au fond, on aime chialer, puis on aime avoir 4 saisons. À tantôt!
C'est un petit retour en 1988 avec Niagara et la chanson « Soleil d'hiver » que l'on retrouvait sur l'album « Flamme ».
Actualité internationale, près de 100 personnes ont péri au Vietnam au passage du typhon Damre, mais la ville où se tient le sommet des pays de l'Asie-Pacifique est restée relativement épargnée. D'après les derniers chiffres des autorités, hier, au moins 91 personnes sont mortes dans des inondations et glissements de terrain provoqués par ce typhon qui frappe depuis quelques jours le centre et le sud du pays. Et plus de 23 autres étaient toujours portés disparus après cette tempête qui est l'une des plus meurtrières depuis des dizaines d'années au Vietnam. La ville de Da Nang, qui accueille le sommet de l'APEC, donc le sommet des pays de l'Asie-Pacifique, a été touchée par de fortes pluies, mais n'a pas subi de dégâts. Mais la campagne alentour était toujours inondée hier. Plus de 120 000 maisons et 250 000 hectares de terres agricoles ont été endommagés par la tempête à travers le pays. Il tuait par ennui. Nils Oegel, un infirmier allemand de 41 ans, est soupçonné d'être à l'origine de 106 décès de patients, une affaire unique dans l'histoire judiciaire allemande contemporaine. Et le bilan pourrait encore s'alourdir. Des expertises toxicologiques restent en cours pour 5 autres cas suspects en Allemagne, ont précisé hier les autorités. Un porte-parole a par ailleurs précisé qu'une exhumation avait été demandée aux autorités turques dans 3 cas de mort suspecte. Ces personnes, mortes en Allemagne, ont été enterrées en Turquie. Une mise en accusation devrait vraisemblablement intervenir en début d'année prochaine, selon ce communiqué. Oegel a généralement tué des patients à l'aide de surdoses médicamenteuses injectées lorsqu'ils étaient en réanimation dans 2 hôpitaux entre 1999 et 2005. Plus de 200 personnes ont été arrêtées en Arabie saoudite dans le cadre d'une purge anticorruption sans précédent menée récemment dans le royaume, qui a notamment visé des princes, ministres et hommes d'affaires, ont indiqué hier les autorités saoudiennes. Cette annonce intervient sur fond de réformes choc dans le royaume ultra-conservateur sous l'impulsion du jeune prince héritier Mohamed Ben Salman. Elle survient aussi dans un climat de plus en plus tendu avec l'Iran, et après la démission du premier ministre libanais Saad Hariri, proche de Riyad, un an après avoir formé un gouvernement avec le Hezbollah pro-iranien. Un total de 208 personnes ont été convoquées pour interrogatoire jusqu'à présent. Sur ces 208 personnes, 7 ont été relâchées sans être inculpées. L'ampleur potentielle des actes de corruption révélés est très grande, a indiqué le procureur général du royaume dans un communiqué. Les sommes concernées par ces malversations atteignent 100 milliards de dollars, près de 127 milliards en canadien, sur quelques dizaines d'années selon la même source qui parle d'une enquête sur 3 ans. Le pape François a décidé d'interdire à partir de 2018 les ventes de cigarettes dans le magasin détaxé où les employés du Vatican peuvent faire leurs courses. La raison est très simple. Le Saint-Siège ne peut pas contribuer à une activité qui affecte clairement la santé des gens, a expliqué jeudi le porte-parole du Vatican, Greg Burke, dans un communiqué. Aucun profit ne peut être légitime s'il met des vies en danger, a-t-il ajouté, en reconnaissant, mais sans donner de chiffres, que les cigarettes vendues à prix réduit représentaient une source de revenus pour le Saint-Siège. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac est à l'origine de plus de 7 millions de morts dans le monde chaque année. Les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ouverture d'une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés dans les troubles survenus de 2015 à 2017 au Burundi, devenu le mois dernier le premier pays à quitter la CPI, a annoncé le tribunal hier. Cette autorisation concerne notamment le meurtre et la tentative de meurtre, l'emprisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution. Le pays est plongé dans une grave crise depuis que le président a annoncé en 2015 sa candidature à un troisième mandat, qu'il a obtenu après une élection boycottée par l'opposition. Les violences qui ont accompagné cette crise ont entraîné au moins 1 200 morts, la détention illégale de milliers de personnes, des centaines de disparitions ainsi que le déplacement de plus de 400 000 personnes d'avril 2015 à mai 2017, d'après les estimations de la Cour pénale internationale. Actualité culturelle, Stéphanie Crête-Blais témoigne d'une inconduite de Sylvain Archambault. La comédienne Stéphanie Crête-Blais, en vedette dans Virginie de 2006 à 2010, a publié sur son compte Facebook un témoignage dans lequel elle relate une audition avec le réalisateur Sylvain Archambault pour une publicité de bière, au cours de laquelle elle était accompagnée d'une autre comédienne dont le récit a été publié mercredi dans la presse et d'un comédien. « OK, vous deux, vous allez l'insulter. » Entre parenthèses, moi, elle parle donc, c'est Stéphanie Crête-Blais qui écrit « Moi, chacun votre tour et toi, après chaque insulte, tu vas dire « Moi, je couche avec des gars pour 5 piastres. » Et plus tu te fais insulter, plus tu vas être triste. On commence ce jeu ridicule qui n'a strictement, mais strictement rien à voir avec la publicité, on s'entend. OK, vas-y, tu es triste là, ils viennent de dire que tu pues et que tu es laide. Je suis partie à rire, j'en pouvais plus. C'était surréaliste. Ensuite, on doit faire semblant que notre index brûle. On doit avoir de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il demande soudainement à l'autre comédienne dans cette douleur. « Vas-y, embrasse le gars à côté de toi. Go, vas-y! » relate Stéphanie Crête-Blais, qui a au final été retenue pour le rôle et appelée pour un tournage. « Il m'a appelé Bubble Butt, B-U-T-T, toute la journée. » et autres petits noms coquins sur mes fesses, avec les regards insistants et déplacés qui viennent avec. « Tu dois avoir fait de la danse pour avoir des belles fesses de même », me lançait-il, entre autres, devant tout le monde sur le plateau, raconte la comédienne qui a pu compter sur le soutien d'une assistante présente sur le plateau, très mal à l'aise. La presse a contacté l'avocat de M. Archambault pour recueillir sa réaction et est dans l'attente d'une réponse de sa part. Plus de détails à venir. Alors, on dit « bubble butt ». Offenbach lancera un album 33 ans après la sortie de Rocorama. Offenbach lancera en mars un nouvel album de chansons originales. La formation québécoise avec le guitariste John McGill aux commandes proposera de la nouvelle musique et partira ensuite sur la route avec une tournée. La formation légendaire est toujours active, mais sous une toute autre forme, avec le chanteur Ghislain Robida, le bassiste Dominique Romanelli, le claviériste Éric Sauvé, le batteur Michel Landry et John McGill, qui est propriétaire de la marque Offenbach. L'idée de s'attaquer à de nouvelles chansons et à un nouvel album a été lancée il y a quelques années par le guitariste Johnny Gravel, qui, avant d'être victime d'un accident vasculaire cérébral en 2012, faisait toujours partie de la formation. C'était un rêve pour moi de continuer d'écrire des chansons dans le style d'Offenbach. On retrouve la même énergie que dans le temps de Jerry Boulet, et de la vieille gang. Ça sonne comme Offenbach, mais un peu plus moderne. Ça sonne 2018 à laisser tomber le guitariste qui s'amène demain à Québec avec Offenbach à la salle Jean-Paul Tardif du Collège Saint-Charles-Garnier. Pour célébrer leur 20e anniversaire, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM, se promènent sur l'île pour offrir 9 représentations gratuites. Ça commence aujourd'hui avec My Country, My Country de Laura Poitras sur la vie des Irakiens sous l'occupation américaine et ça se termine le 18 novembre avec Bacon, le film d'Hugo Latulippe sur l'impact environnemental et social des méga-porcheries. Comme l'exposition Hergé à Québec du Musée de la civilisation est prolongée jusqu'au 3 décembre, il y a matière à plonger ou replonger dans le monde du créateur de Tintin cette fin de semaine. Samedi, une équipe d'improvisateurs jouera une pièce de théâtre, à la manière d'Hergé, pièce qui puisera dans les idées des visiteurs dans le hall de 20h à 22h, contribution volontaire. Dimanche matin, les enfants pourront apprendre à manier le phylactère et le dessin avec le bédéiste Tristan Demers, au Belvedere à 11h, gratuit avec droit d'entrée au musée. Et juste après, Tristan Demers se livrera une conférence inspirée de son livre « Tintin et le Québec » sur l'influence qu'a eue le jeune reporter à la houppe sur les enfants de la Révolution tranquille à l'Auditorium Roland-Arpin à 13h30. Et c'est samedi et dimanche au 85 rue Dalhousie à Québec. Vous pouvez avoir plus de détails en allant au mcq.org. Malgré ses 70 ans de métier, Petula Clark a encore une réelle passion pour la musique. Pour preuve, la chanteuse qui célébrera son 85e anniversaire le 15 novembre a passé 2 semaines en studio à Montréal le mois passé afin de peaufiner les pièces qui composent son prochain album en français, un opus 100% québécois qui verra le jour en mars. Si une chose était claire au moment de lancer ce projet, c'était bien le désir de l'artiste d'enregistrer du matériel original. Parmi les quelques 18 chansons qui ont pu se frayer un chemin jusqu'en studio, on compte celles portant la griffe de France d'Amour, Kevin Bazinet, Frédéric Baron, Christian-Marc Gendron, Luc de la Rochelière et Nelson Mainville. Les producteurs de l'album ont décidé de réunir les musiciens Antoine Graton et Louis-Jean Cormier à titre de co-réalisateurs sur le projet. Et Petula Clark a dit « Je me suis sentie très à l'aise ici, dans ce studio, avec ses musiciens et ses chansons. J'ai senti que c'était vraiment moi. Par le passé, je n'ai pas toujours ressenti ça, surtout en français. » La sortie du nouvel album de Petula Clark sera suivie d'une tournée dans la province qui aura lieu du 6 au 22 mai 2018. Album hommage Henri à 100 ans. Notre Henri Salvador n'est pas le leur. Nous l'avons surtout connu en fin de parcours à partir de Chambre avec vue, les années jazzy douces. En France, il y a une partie de pétanque jamais finie entre l'émule de Django, le copain de Vian, l'inventeur de la bossa et le clown mille fois télévisé des Zorro est arrivé. Juanita, Banana et tant d'autres bêtises rigolotes et alimentaires. Louis Chédid, maître d'œuvre de cet hommage, a donc cherché à lier le plus naturellement possible les messages Henri, les messieurs Henri. La bonne idée, que ce soit d'abord une affaire de famille, la blouse du dentiste sied parfaitement à Fiston, M, qui est le fils de, Mathieu, de Louis Chédid, ici il s'agit de Mathieu Chédid, sa fille Nash berce idéalement faire des ronds dans l'eau, tour de manège, et le père Louis lui-même trouve sa bonne place dans le jardin d'hiver. Autour d'eux, des amis de qualité, Benabar qui se la joue Nino Ferrer pour « C'est pas la joie », notre Charlebois qui dodeline du chef dans « Clopin, clopin », Véronique Sanson qui émeut dans « Tant de temps ». Exemplaire, exemple, c'est une critique au disque « Hommage Henri à 100 ans » qu'on écoute.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
Henri Salvador. Un autre million remporté dans la région, c'est dans le quotidien Pascal Gérard pour amorcer la tournée des journaux régionaux. Des gens très heureux, tout sourire. Décidément, les nouveaux millionnaires se succèdent au Saguenay-Lac-Saint-Jean car un autre groupe vient de remporter un gros lot $1 million de l'Auto-Québec. 5 membres d'une même famille ont remporté le lot garanti du tirage de la Loto 649 du 1er novembre. Le billet a été acheté à l'alimentation M&M de la rue Saint-Jean-Baptiste à Jonquière. Ce détaillant recevra 10 000 $. Les gagnants sont Annie Bélanger, Lucette Saint-Pierre-Simard ainsi que Dany, Linda et Nicolas Simard. Ces membres d'une même famille jouent ensemble à la loterie depuis 20 ans, indique l'Auto-Québec dans son communiqué. Le responsable du groupe, Dany Simard, a fait valider le billet alors qu'il faisait des courses. La caissière lui a alors annoncé « Monsieur, vous êtes millionnaire. » Elle a ensuite essayé d'appeler les membres du groupe, mais personne ne répondait. La famille a finalement réussi à se réunir pour partager la bonne nouvelle. On s'est tous déjà demandé ce que l'on ferait si on était millionnaire, et voilà que c'est nous, c'est irréel, s'est exclamé Dany Simard. Rappelons qu'un montant de 2 millions a été remporté par un couple de Saint-Ambroise à la fin du mois d'octobre. Au mois d'août, un groupe de 27 employés de Saguenay avait mis la main sur 23 millions. Le 10 février, un couple de Canton, Tremblay, avait gagné pas moins de 60 millions au Lotomax. Le hasard a aussi fait un autre grand gagnant dans la région, mais malheureusement, cette personne l'ignore. En fait, un billet gagnant de la loterie La Grande Vie n'a pas été réclamé. Le tirage a eu lieu le 19 octobre. Cette loterie offre au gagnant 25 000 $ par année pour le reste de sa vie. Il s'agit du deuxième lot en importance car le premier lot permet de toucher 1 000 par jour à vie. Les chances de gagner le deuxième lot sont d'une chance sur 2 224 698. Par ailleurs, il ne s'agit pas du plus gros lot non réclamé actuellement au Québec. Deux gagnants d'$1 million dans les régions de Chaudière-Appalaches et des Laurentides ne se sont toujours pas manifestés.
Thank you.
Dans le soleil, Jean-Marc Salvet, un pas de plus vers la chasse à l'écureuil. Le ministre Luc Blanchet a mandaté des spécialistes de divers champs d'expertise du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l'éclairer sur la pertinence de permettre la chasse à l'écureuil. Il s'agit d'un pas de plus vers cette éventuelle ouverture qui serait très balisée le cas échéant. Ce comité soupèsera le pour et le contre. Une possible ouverture d'une chasse à l'écureuil soulève quelques préoccupations en matière de sécurité publique et d'application réglementaire, soumet d'abord le ministre. Mais il faut également considérer certains avantages possibles advenant la légalisation de la chasse à l'écureuil, comme la diversification de l'offre faunique, ainsi que la satisfaction de la clientèle de chasseurs en faveur de cette pratique. Ces enjeux doivent faire l'objet d'une réflexion plus poussée. C'est ce que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs écrit en réponse à deux pétitions aux visées opposées sur la chasse à l'écureuil. Elles ont été présentées au début du mois dernier à l'Assemblée nationale. Dans le droit, Justine Mercier, Gatineau se dit prête pour l'hiver. De nouvelles chenillettes à trottoir, une modification des horaires de travail, des cols bleus et l'installation de 4 stations météorologiques font partie des éléments qui font dire à la ville de Gatineau qu'elle est enfin prête pour répondre à ses objectifs en matière de déneigement. La direction en place a tout fait cette année pour améliorer l'efficacité et la rapidité des opérations, soutient le chef de la division voirie à la ville de Gatineau, Danny Lucier. Le territoire à couvrir est immense. Près de 3000 km de voies routières doivent être parcourues dans les 16 heures suivant la fin de précipitation, de moins de 25 cm afin d'y enlever la neige, un compteur qui retombe à zéro lorsque de nouveaux flocons tombent. À cela s'ajoutent quelques 600 km de trottoirs et de sentiers qui sont déneigés dans les 24 heures s'il y a une accumulation de plus de 5 cm ou s'ils sont glacés. Et dans le Nouvelliste, Guy Veillette, Molson Coors se paie le trou du diable. Troisième brasseur mondial, Molson Coors fait une nouvelle incursion dans la bière artisanale en se payant le joyau de Shawinigan, le trou du diable, pour un montant qui n'a pas été révélé. La nouvelle a été confirmée par les 4 fondateurs et les représentants de Six Pints, la division de produits spécialisés de la multinationale jeudi matin au salon Wabasso. Et il y a Martin Franqueur qui signe un éditorial « Le trou a-t-il vendu son âme au diable » à lire dans le Nouvelliste. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service quotidien. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Profitez bien de cette journée froide. Paraît-il qu'on bat un record historique en cette journée du 10 novembre. Bientôt, on se retrouve dès lundi. Bon week-end!